Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur RTF et c'est Cinéscopie tout de suite, l'émission consacrée au cinéma et à la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler de l'actualité du cinéma, que ce soit les films qui sortent en salle, mais aussi les films sur support physique comme le Blu-ray, le DVD, et puis pour vous parler bien sûr de musique de film. La musique de film d'ailleurs, c'est la parution chez un label américain, Screen Archive Entertainment, avec Brigham Young University, d'une partition écrite par Max Steiner pour le film Now Voyager, qui était sorti en France, me semble-t-il, sous le titre Une femme cherche son destin. Et c'est un film du début des années 40 avec Bette Davis dans le rôle principal. Et Max Steiner a écrit une superbe musique pour ce film, pour ce mélodrame, et a obtenu d'ailleurs un Oscar pour sa partition. Donc c'est l'occasion de vous procurer cette très belle partition, cette très belle musique chez Screen Archive Entertainment. Voilà, difficile à dire ça finalement. Et puis l'actualité, vous l'avez appris, hein, elle est un peu triste cette actualité, puisque nous déplorons la disparition de deux comédiennes que nous avons beaucoup aimées. Nadia Farès qui avait joué notamment dans Les Rivières Pourpres, qui avait fait aussi un peu de télé, dans, je crois, une mini-série qui s'appelait Les Ombres Rouges. Et Nadia Farès, elle avait aussi joué dans Nid de Guêpe, aussi, un film d'action. Donc, elle avait travaillé avec Luc Besson, et d'ailleurs, c'est à la faveur d'une collaboration avec Luc Besson qu'elle avait rencontré son mari, un producteur américain, dont elle avait divorcé, d'ailleurs, me semble-t-il, en 2022. Et voilà, elle nous quitte en laissant deux enfants derrière elle, Nadia Farès, qui avait fait un malaise et qu'on avait retrouvé donc dans une piscine, et qui avait été mise en coma artificiel, mais qui souffrait depuis quelques nombreuses années de problèmes cardiaques. Elle avait été, je crois, opérée d'un anévrisme au début des années 2000. Donc tout ça l'a rattrapée. Et voilà, on déplore évidemment la disparition de cette belle actrice née d'un père marocain et d'une mère arménienne, me semble-t-il. Et puis, évidemment, une de nos plus grandes comédienne, actrice française, Nathalie Baye, qui nous a quitté vendredi dernier, et dont les obsèques d'ailleurs auront lieu à la fin de la semaine. Nathalie Baye, dont, en ce qui me concerne, j'étais tombé amoureux, je m'en souviens très bien, en regardant la bande-annonce du film La Provinciale. Je me souviens même que c'était au Star, quand ce cinéma existait. Le Star, c'était, pour ceux qui ne l'ont jamais connu, côté Place de la République. Et voilà, et je me souviens de la bande-annonce de ce film, La Provinciale, et puis du beau visage de Nathalie Baye. Ouais, une femme vraiment très charmante et qui a vraiment joué dans tous les registres. Elle a eu une carrière vraiment éclectique. Et on l'avait revue il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023, dans le film La Nuit du Verre d'eau de Carlos Chahine, où elle jouait le rôle d'une Française plongée dans le Liban des années 50. Alors, oui, elle avait fait ses débuts, Nathalie Baye, dans La Nuit américaine, le film de François Truffaut. Elle jouait dans ce film le rôle d'une script girl. Et elle allait retravailler avec François Truffaut un peu plus tard, 5 ans plus tard d'ailleurs, pour le film La Chambre verte. Et évidemment, à partir de là, eh bien, le succès arrive très très vite. Elle va obtenir un premier César dans le film Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard en 1981. Et elle obtiendra d'ailleurs un deuxième César l'année suivante grâce au film Une étrange affaire, le film de Pierre Granier de Fer. Et elle obtiendra un troisième César pour le film La balance de Bob Swaim en 1983, un film dans lequel elle joue le rôle d'une prostituée au grand cœur, aux côtés de Philippe Léotard. D'ailleurs, me semble-t-il qu'elle a vécu une liaison avec Philippe Léotard, Nathalie Baye. Voilà, c'est un film un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui rend assez crédible ce couple de hors-la-loi, interprété par Léotard et Nathalie Baye. Et c'est peut-être un film à redécouvrir. En tout cas, un film qui n'a pas été oublié, c'est Le Retour de Martin Guerre, dans lequel la comédienne joue à peu près à la même époque. Il s'agit d'une transposition à l'écran d'une affaire judiciaire de 1560. Plus d'un million de spectateurs vont voir le film en salle. Dans ce film, Nathalie Baye doute de l'identité de son mari, incarné par Gérard Depardieu. Voilà. C'est un film de Daniel Vigne, et Nathalie Baye en gardait un très bon souvenir de ce retour de Martin Guerre. Un film d'ailleurs qui avait fait l'objet, me semble-t-il, d'un remake américain avec Richard Gere dans le rôle principal. Alors, on peut citer également en 1983 son rôle dans J'ai épousé une ombre, le film de Robin Davis, un mélo au succès d'ailleurs considérable. Dans ce film, Nathalie Baye intègre une riche famille qui la prend pour une autre. Et on la retrouvera aussi l'année suivante dans un beau face-à-face, un face-à-face douloureux d'ailleurs, avec Alain Delon dans le film Notre Histoire, réalisé par Bertrand Blier. En 1990, la revoilà plongée dans les années 50. Pour la réalisatrice Diane Curis, elle incarne dans La Baule les Pins une mère de famille malheureuse en amour qui trouve le répit dans les bras de son jeune amant, Vincent Lindon. Et puis, elle va jouer un rôle marquant dans un film qui d'ailleurs a été rediffusé hier soir à la télévision, c'est Vénus Beauté de Tony Marshall en 1999. L'actrice y fait éclater sa malice en faisant tourner le manège d'un petit institut de beauté avec ses clientes, ses esthéticiennes, ses rituels, ses hiérarchies. Très beau film, très beau succès d'ailleurs, commercial pour ce film Vénus Beauté. Et puis c'est un peu la consécration à l'international puisque Steven Spielberg l'appelle pour le film Arrête-moi si tu peux en 2002. Et Nathalie Baye donne la réplique à Leonardo DiCaprio, puisqu'en fait elle interprète la mère de Leonardo DiCaprio dans le film. Elle apprend d'ailleurs que son fils est un escroc. Et puis elle rejoint ensuite les forces de l'ordre dans un cinéma d'auteur, c'est celui de Xavier Beauvois, Le Petit Lieutenant, en 2005. Là aussi une prestation remarquable, qui lui vaut un quatrième César. Et puis, la fin de sa carrière a des accents québécois, puisqu'elle va jouer deux fois pour Xavier Dolan, notamment dans Laurence Anyways en 2012 et Juste la fin du monde en 2016. Voilà, une comédienne qu'on a beaucoup aimée. Alors, c'est vrai, sa disparition nous a surpris, choqués, peinés, parce que, c'est vrai, en ce qui me concerne, j'ignorais qu'elle souffrait d'une grave maladie, et elle nous a quittés, elle avait 77 ans, elle était née en 1948, Nathalie Baye, et on restera toujours amoureux de la provinciale, finalement. Voilà, triste nouvelle, évidemment, cette semaine, avec la disparition de ces deux superbes actrices. Mais on va quand même commencer l'émission en musique. Je me tourne vers Laurent, as-tu passé une bonne semaine cinématographique ?
Bonsoir à tous. Ben oui, excellente. Bon, c'est vrai que voilà, un petit peu entaché par cette disparition qui, bien sûr, touche à notre patrimoine cinématographique, et donc forcément ça reste quand même un gros choc pour le cinéma français et le cinéma aussi international, parce que malgré tout elle faisait partie du patrimoine, mais surtout une reconnaissance de par ses pairs et aussi par en tout cas le choix artistique qu'elle a pu faire dans sa carrière, qui est vraiment magnifique. Et donc, on va lui rendre hommage avec entre autres une musique qui date de 1990, film, une comédie dramatique, m'avait assez touché à l'époque, ce film de Diane Curis, La Baule des Pins, à qui on doit aussi d'autres films, mais entre autres celui-ci si j'ai bonne mémoire, il y a Jean-Pierre Bacri dans ce film-là, qui est aussi excellent. Et cette comédie est accompagnée d'une musique extraordinaire de Philippe Sard, que j'apprécie particulièrement. Le thème, en tout cas d'ouverture, qui est en fait un thème qui est orchestral mais aussi très intimiste, au piano, radicalement classique en termes de composition, mais qui est assez imparable en termes de mélodie, et donc qui en tout cas suggère une atmosphère qui colle excellemment bien au film. C'est extrêmement bien senti en tout cas, et donc on va écouter cela. C'est le thème donc d'ouverture qui dure à peu près un peu plus de 4 minutes, et on se retrouve juste après et bien pour parler vidéo, voilà. Et donc ça c'est vraiment en tout cas une très très belle partition. Si vous ne la connaissez pas, si vous vous tombez, on va dire par hasard, mais qui se ferait à mon avis assez rare, parce que je crois que l'édition qui était sortie à l'époque, ça fait longtemps qu'elle est épuisée, et c'est vraiment un disque de collection. Donc tout de suite, donc l'ouverture de La Baule les Pins. Thank you. vidéo.
L'actualité du support physique, c'est tout de suite dans Cinéscopie. Nous sommes en direct, hein, il est 21h et bientôt 14 minutes à la pendule de RTF. Alors on va vous parler évidemment de l'actualité DVD, Blu-ray, 4K, voilà. Bon. Avec tout d'abord une sortie vraiment très 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 intéressante, c'est chez Artus Film, c'est La Guerre des Gangs. Alors La Guerre des Gangs était parue en DVD il y a quelques années chez Ecstasy Film. Artus nous le propose aujourd'hui dans un combo Blu-ray DVD, mais avec un Blu-ray standard et un Blu-ray ultra haute définition. Donc nous avons le film, on peut voir le film dans les meilleures conditions possibles et ça c'est vraiment formidable. Et en plus de ça, non content d'avoir une double galette, nous avons une troisième galette, c'est la musique originale du film composée par Fabio Frizzi. Donc c'est sûrement une magnifique édition. Mais en plus, il n'y a pas que cela, il y a un livret de 80 pages consacré au Polizio Tesco. Alors c'est tout d'abord une soixantaine de pages consacrées au polar italien des années 70, et puis ensuite un mini dossier consacré au film La Guerre des Gangs, écrit par Lionel Grenier, qui est le spécialiste français de Lucio Fulci, parce que je vous rappelle que La Guerre des Gangs c'est tout d'abord un film de Lucio Fulci, réalisé en 1979, sorti sur les écrans en 1980-81, un film avec dans les rôles principaux Fabio Testi et Marcel Bozzuffi. C'est un incontournable du Polizio Tesco. C'est un film qui vraiment arrive en fin de période, hein, le film policier italien. Au début des années 80, il périclite un petit peu, il commence à passer de mode. Et Lucio Fulci arrive là-dessus et va imprimer au film tout son univers. Et ça en fait d'ailleurs un des films les plus violents du genre. Alors le film à l'origine ne devait pas d'ailleurs s'appeler ne s'appelait pas La Guerre des Gangs, il s'appelait Violenza, c'est-à-dire violence. Et puis finalement les distributeurs ont changé le titre, c'est devenu Luca le contrebandier, puisqu'en fait le film nous plonge dans l'univers des contrebandiers de Naples. Il semble plus que probable que les camorristes aient prêté main forte en prêtant à la production les véritables hors-bord servant aux contrebandiers pour faire le trafic de cigarettes. Voilà. Donc, il y a effectivement une véritable guerre des gangs, hein, dans ce film, puisque les contrebandiers qui font ce trafic de cigarettes vont s'opposer à d'autres mafieux qui, eux, veulent importer le trafic de drogue sur Naples. Bon, historiquement, c'est peut-être pas très très juste, hein, parce que le trafic de drogue sur Naples, il faut pas attendre le début des années 80, il est là déjà depuis quelques années, mais bon. Il y a un côté, alors c'est un reproche qui a été fait au film, outre sa violence que certains ont jugée outrancière, certains ont trouvé que le film était peut-être un peu trop sympathique vis-à-vis des contrebandiers, c'est vrai que Lucas, le contrebandier, c'est un personnage finalement romantique, mais c'est un personnage intéressant puisque, en fait, c'est plutôt un anti-héros dans le fond, dans la mesure où il subit les événements, voilà, plus qu'il ne les contrôle. Voilà, il va subir jusqu'à la fin. Voilà, très bon film de Lucio Fulci, un de ses meilleurs. À l'époque, il vient de réaliser L'Enfer des zombies juste avant, et quand il commence le tournage de La Guerre des gangs, il n'est pas encore conscient du succès de son film L'Enfer des zombies dans le monde entier. Et voilà, mais donc c'est à partir de là, voilà, il va se replonger dans le cinéma fantastique, dans cet univers qu'il aime bien, avec notamment deux films marquants, Frayeur et L'Au-delà. Et puis ensuite, il va enchaîner avec La Maison près du cimetière. Et puis un autre giallo assez glauque également, c'est L'Éventreur de New York. Voilà, en tout cas, vous pouvez vous procurer ce très beau coffret La Guerre des gangs, et tout ça pour la somme, la modeste somme, puis-je dire, de 29 euros. Ah oui, parce que vous avez quand même la musique originale du film, plus le film en ultra haute définition, et puis un livre de 80 pages, c'est chez Artus Film. Je vous le conseille. Alors, on va rester avec le polar, avec un coffret qui sort chez Carlotta cette semaine. C'est la trilogie de la traque. Trilogie réalisée par le metteur en scène japonais Junya Sato, réalisateur du célèbre Super Express 109, film sorti en 1975, et qui, donc à l'époque, Junya Sato devient vraiment la référence absolue dans le domaine du cinéma d'action et de suspense japonais. Alors, ces trois films qui composent la traque, hein, c'est une sorte de trilogie informelle, on va dire, autour de la crise de l'homme moderne aux prises avec des systèmes sociaux et politiques défaillants. Le premier film s'intitule « Chasse à l'homme, la rivière de la rage », film réalisé en 1976. Un film assez long d'ailleurs, puisqu'il dure 2h30, hein, un petit peu plus de 2h30. À Tokyo, de lourdes accusations pèsent sur le procureur Fuyuto Morioka. Arrêté par la police, celui-ci parvient à s'échapper et à quitter la capitale. S'ensuit bientôt une cavale à travers le Japon, durant laquelle le fugitif est déterminé à prouver son innocence. Dans le deuxième film, qui s'intitule « La preuve d'un homme », un jeune afro-américain est retrouvé poignardé dans un hôtel tokyoïte, où se déroule au même moment un défilé de mode. L'enquête va mener l'inspecteur Munezue jusqu'aux États-Unis, où ce dernier va devoir faire équipe avec son homologue new-yorkais Ken Chuftan. Voilà, un film qui se délocalise aux États-Unis, film donc réalisé celui-ci en 1977. Et en 1978, Junya Sato réalise Survie en pleine nature. Là aussi, c'est un film relativement long, hein, de pratiquement 2h30. Dans ce film, l'officier des forces spéciales Ajizawa provoque malgré lui la mort de deux personnes au cours d'une expédition. Pris de remords, il décide de quitter l'armée et de changer de vie, non sans avoir juré à ses supérieurs de ne jamais révéler la vérité sur cet incident. Mais voilà, tout va évidemment partir en vrille. C'est comme l'indique son titre, hein, Survie en pleine nature, c'est un survival assez prenant. Voilà, donc eh bien cette trilogie de la traque est disponible pour la première fois en 4K ultra haute définition, est présenté en Dolby Vision par Carlotta. Et voilà, c'est présenté dans un étui rigide. Et donc, ce sont de toutes nouvelles restaurations. Et tout cela pour un prix oscillant entre 70 et 80 euros. La trilogie de la traque par Junya Sato chez Carlotta. Là aussi, c'est quand même un incontournable. Alors, je marche, c'est vrai, un petit peu sur les plates-bandes de Laurent, qui est un spécialiste, vous le savez, du cinéma asiatique. Restons avec la traque, avec un film intitulé « Traqué ». Film réalisé par William Friedkin en 2003. « Traqué » est un thriller intense où la nature devient un terrain de chasse oppressant. Benicio del Toro incarne Aaron Hallam, un ancien soldat d'élite devenu meurtrier, traqué par son ancien mentor, Lev Smith, interprété par Tommy Lee Jones. Le film explore la psychologie des vétérans traumatisés et le duel tendu entre maître et élève, avec des séquences de survie et de chasse magnifiquement filmé. Voilà, donc c'est un film assez nerveux, assez réussi de William Friedkin. Alors, bon, j'allais dire, on ne le présente plus, mais on va quand même rappeler que William Friedkin est le réalisateur de L'Exorciste, de Sorcerer, Police Fédérale Los Angeles. Il a remporté en 1972 l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour French Connection. Et en 2013, Friedkin avait obtenu un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, c'est vraiment un très bon film à retrouver, avec notamment ces acteurs qu'on aime beaucoup, Tommy Lee Jones et Benicio del Toro. Alors, c'est un combo UHD Blu-ray, avec en bonus une présentation du film par Philippe Gage, un portrait de William Friedkin et quelques scènes coupées. Je crois qu'il y a 5 ou 6 scènes coupées à découvrir dans les bonus de ce film Traqué, et que je vous recommande. C'est l'Atelier d'Images qui vous propose ce film. Et bien voilà pour ma petite sélection du soir. C'est vrai que j'ai quand même ciblé pas mal les polars, hein, entre La Guerre des Gangs, la trilogie de la traque et le film de Friedkin, Traqué. Voilà, mais ce sont tous des films vraiment à découvrir et qui vont vous tenir en haleine. Eh bien, maintenant, je me tourne vers mon ami Laurent. Quelle est la sélection de ce soir, de ton côté ? Ah, il était aux manettes, il s'activait, parce que c'est notre technicien en même temps. Ah, mais c'est fou, comme il a le don d'ubiquité, ce Laurent.
Alors, c'est pas foncièrement une nouveauté, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ça serait bien quand même, voilà, de parler de ce coffret qui était sorti en fin d'année dernière, qui est passé un petit peu sous les radars, hein, faut bien le dire. Une sortie chez Artus Film pour en fait un metteur en scène que l'on connaît bien. On a vu quelques-uns de ses films. Je vais faire sorte d'impasse au cinéma asiatique, parce que là on n'est pas du tout dans ce registre-là.
Oui.
on est plutôt dans le cinéma espagnol. Voilà.
Oui, très bien.
Qui couvre en fait, on va dire, une carrière entre 1978 et 1986. Tous ces films sont interdits au moins de 16 ans. et on y retrouve Consol Tura, Angela Molina et Angel Jovet pour un metteur en scène. Je pense que vous l'avez un petit peu deviné, c'est Bigas Luna. Voilà.
Oui, très très bien ça.
Et donc, il y a un coffret qui était sorti, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé parce que bon, en plus, il n'a pas été énormément médiatisé, et je pense que malgré tout, je crois pour Artus, ça a été peut-être une petite déception, parce que tout simplement, la presse s'en est pas foncièrement emparée. Mmh. Et donc, pour le coup, on essaye de vous en parler, parce que c'est quand même une belle initiative de la part d'Artus, en tout cas un petit peu téméraire, parce que c'est vrai que c'est pas que le cinéma de Bigas Luna n'est pas porteur, mais bon, voilà, c'est quand même.
Pourtant, des thèmes assez surprenants.
Oui.
c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Alors là, ça regroupe en fait plusieurs films, trois films, hein, à commencer par le premier qui s'appelle Caniche. et qui raconte, ça se passe dans une maison isolée, l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent avec un chien jusqu'à ce que l'arrivée d'un inconnu bouleverse leur existence. Voilà.
Oui. Peut-être pas trop en dire quand même.
Mais non, on va pas.
Donc avec un titre comme ça.
Voilà, on va pas spoiler. L'autre film s'intitule Bilbao, et donc là c'est l'histoire d'un homme qui voit en fait, qui suit plutôt une danseuse et finit par la séquestrer.
Oui. Voilà.
Donc un pitch très intéressant.
Ah oui, non mais à chaque fois c'est surprenant.
Voilà. Et le dernier film qui s'intitule Lola, qui est l'histoire en fait d'une femme qui tente de reconstruire sa vie amoureuse, mais qui se retrouve au centre d'une affaire mêlant passion et justice. Chez Bigas Luna, eh bien, le désir n'est jamais simple, encore moins moral. Hein, et témoin donc ces trois films où le cinéaste catalan creuse les territoires de la pulsion et de la dépendance affective avec une brutalité presque clinique. Et d'ailleurs, au point qu'on peut y voir un ensemble sur la dévoration où la chair, le regard et la nourriture se confondent dans une même fièvre. Et donc, tout y ramène la possession, le corps désiré, enfermé, consumé ou réduit à des restes. Voilà. Et derrière donc la mise en scène des pulsions, eh bien, on sent le peintre qu'il fut, scrutant donc les textures, les fluides, la lente décomposition des âmes et des objets. L'érotisme y devient rituel. La beauté, d'ailleurs, s'y corrompt dans la souillure. C'est un cinéma qui regarde la monstruosité sans détour, où la folie eh bien, intime déborde les cadres d'une Espagne post-franquiste, encore engoncée et prise au piège du même voyeurisme que les protagonistes, et qui oscille entre fascination et dégoût. Et donc, en clair, c'est un regard, ce sont des regards, je dirais même, sensibles et esprits traditionnalistes qui, à mon avis, doivent s'abstenir pour découvrir, en fait, le cinéma de l'espagnol de Bigas Luna. On est loin de Pedro Almodovar, hein, même si...
Oui, mais même, bon, il y a un petit côté... chez Almodovar, il y a un côté transgressif également, surtout dans ses premiers films, on va dire. Hein.
Oui, mais...
On retrouve peut-être chez Alex de la Iglesia, ou... Pardon, Alex... Eloy de la Iglesia, voilà. Et puis, voilà, mais c'est peut-être aussi, d'ailleurs, c'est Alex de l'Iglesia, d'ailleurs, aussi.
Oui,
aussi
Alex
également, ouais. On en trouve aussi chez lui. Mais non, très intéressant ce cinéma espagnol de Bigas Luna. Je crois que c'est lui qui avait fait Angoisse, il me semble, hein, Bigas Luna. C'est un film fantastique, c'est passé dans une salle de cinéma. C'était assez intéressant aussi.
Oui.
Moi, j'avais eu ça, je me souviens. C'était aux Omnia, à l'époque. Place de la République. Ah. Nostalgie.
Alors, on reste un petit peu dans le cinéma anticonformiste. Et là, pour le coup, on va se diriger, alors pas du tout en Espagne, mais avec le cinéma roumain. Voilà. et cette fois-ci, avec un film qui est sorti chez JHR Film, et donc réalisé par Radu Jude. Celui qui avait fait le Dracula, hein, enfin une version de Dracula.
Ah oui, c'est vrai, oui, je me souviens de ça. Oui.
Un petit scénario assez foutraque, je dirais. Ouais. Mais qu'en tout cas, qui faisait la pige la même année au Dracula de Luc Besson, en tout cas. Parce que.
Oui. Au moins, il y avait cette originale.
Voilà, de par son originalité, je dirais. et donc là, le réalisateur. A tourné ce film, donc c'était un an avant son Dracula. Ça s'intitulait Continental 25, et donc on y retrouvait Esther Tompa, Gabriel Spayou et Adonis Tanta. Ça se passe, enfin, l'histoire se passe dans la capitale de Transylvanie, donc une huissière de justice qui est profondément ébranlée par le suicide d'un sans-abri auquel elle venait de notifier son expulsion du logement de fortune qui lui servait de refuge. Et donc, fidèle donc, à ses embardées expérimentales, hein, on ne peut pas dire ça autrement d'ailleurs, eh bien, le cinéaste roumain n'hésite pas à enchaîner des plans-séquences volontairement bavards au cours desquels eh bien, la professionnelle, qui nourrit un profond sentiment de culpabilité au point de remettre en question son activité, eh bien, s'épanche sur un banc public ou dans un café avec une consoeur, un ex-étudiant ou un prêtre qui tente de lui prêter une oreille attentive. Et donc, le prologue consacré au sans-abri décrit avec force son quotidien sordide. C'est peut-être d'ailleurs un des films les plus, je dirais, les plus sérieux de Radu Joud. Peut-être d'ailleurs un peu moins original que l'ensemble des films qu'il a pu tourner. C'est peut-être ce qu'on reproche d'ailleurs à ce film, c'est qu'il reste un petit peu froid quand même. Peut-être avec quelques petites longueurs, ça et là, bien que le film ne soit pas excessivement long, il fait 1h15. Mais bon, il y a quand même quelques longueurs, et en particulier dans ces plans séquences où en fait il y a une sorte de monologue de l'actrice principale. Donc il n'y a qu'une édition DVD pour ceux qui voudraient découvrir ce film. Et puis voilà, si vous êtes un inconditionnel du metteur en scène, il ne faut pas du tout vous priver, voilà.
Ah bah oui, en profiter.
Alors je ne sais pas si on en avait parlé, donc il y a ce film que j'avais adoré, réalisé par Sergueï Loznitsa, film réalisé en 2025, film dramatique qui s'intitulait « Deux procureurs ». En tout cas, qui faisait partie de ma sélection des films.
Dans le top 10.
Top 10 de l'année 2025. C'est un film qui aborde une époque, peut-être, où il n'y a pas eu véritablement de film très précis sur cette période. On est en 1937. On est à l'apogée, en fait, des purges staliniennes. C'est l'histoire d'un jeune procureur qui reçoit une lettre rescapée d'un auto-da-fé carcéral et entreprend de remonter la chaîne judiciaire jusqu'aux plus hautes autorités. La trajectoire obstinée de ce magistrat idéaliste, persuadé de réparer une simple anomalie, se heurte à une machine administrative dont l'absurdité confine au burlesque le plus noir, et donc la mise en scène d'une rigueur presque, je dirais, géométrique et millimétrée, orchestre ce ballet d'humiliation avec une maîtrise fascinante. Et je vais vous dire, la scène, je dirais la grande scène d'ouverture qui raconte en fait la visite au procureur général est à ce titre un diamant de mise en scène et de montage. Ce film est vraiment de toute beauté de part, je dirais, de ce qu'il relate, avec une telle véracité. Et puis on sent qu'il y a derrière une écriture forte et rigoureuse, et qui colle véritablement à cette triste réalité. Et donc, pour le coup, moi, je vous invite à découvrir ce film. Il est distribué en exclu enseigne chez l'éditeur Pyramide. Et c'est vraiment un des films de ma sélection à découvrir, tellement il est très, très, très intéressant. On va parler aussi d'un autre film. Peut-être une deuxième édition d'ailleurs pour ce film excellentissime où sont présents deux grands acteurs. Ce film d'Alan J. Pakula, peut-être que tu en as peut-être parlé, Chris.
Non, je ne crois pas encore.
Donc, réalisé en 1976, c'est une nouvelle édition que nous propose en fait l'éditeur Warner, une édition Steelbook qui propose exclusivement, la version 4K, mais c'est disponible aussi en Blu-ray et en DVD si vous le souhaitez. Mais en tout cas, en termes de nouveautés, c'est une version haute définition. Avec Robert Redford et Dustin Hoffman, Jason Robards aussi. Au passage, la musique est signée David Shire. Le film a eu donc les Oscars des meilleurs second rôles masculins par Jason Robards, scénario adapté et décor et son. Un film mythique, je dirais, qui raconte l'histoire de deux journalistes qui enquêtent sur une affaire qui va révéler le scandale du Watergate. Et donc, cette fiction formidablement documentée est un véritable hommage au journalisme d'investigation et à la liberté de la presse. Donc, franchement, c'est un film à avoir dans sa vidéothèque, vous l'aurez tous compris.
Les hommes du président, c'est quand même un des meilleurs films de Pacula, en fait. Et vous savez, Pierre Sarolade, cette histoire du Watergate qui aboutit à la destitution, d'ailleurs, du président Nixon.
Tout à fait. Et donc, au passage, Warner a mis les petites plaques dans les grands parce que, tout simplement, il a fait une restauration au cordeau. Et donc, on approche la perfection pour ce film. Je le rappelle, de 1976. Donc vraiment, ça vaut le détour et ça vaut très certainement aussi l'achat du fait que voilà, ce film est en fait un film incontournable. Voilà. Je pense qu'on en a pas parlé. Par contre, on en parlait hors antenne avec d'ailleurs en référence. En hommage à Nathalie Baye, avec Le Petit Lieutenant qui est diffusé sur le petit écran ce soir, il y a ce film qui ressemble un petit peu parce que ce sont des polars, mais qui ont, une empreinte telle dans la réalité, comme l'était Le Petit Lieutenant à l'époque de sa sortie, qui était une sorte de photographie des services de la police à l'époque. Et là, c'est pour un film de Dominique Moll, qui a eu un grand succès, en tout cas lors de sa sortie en salle, avec Léa Drucker, Guslagi Malanda et Mathilde Rudrich. Le film s'intitule « Dossier 137 », qui, au passage, a eu le César et Lumière de la meilleure actrice pour Léa Drucker, et qui raconte l'histoire d'une enquêtrice de l'IGPN qui remue ciel et terre pour démontrer une bavure commise par des collègues durant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, dans la lignée célébrée de la nuit du 12, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, mais encore plus tendue et fouillée, cette nouvelle plongée dans les coulisses des forces de l'ordre pose ses enjeux moraux, humains et politiques avec une puissance narrative assez exceptionnelle qui ne néglige ni la réflexion ni l'émotion. C'est du grand cinéma engagé où les Léa Drucker traduit un mélange d'autorité, de courage et d'obstination avec des nuances dignes de tous les lauriers. Vraiment, c'est vrai que c'est une grande réussite de la part de Dominique Moll. Je l'ai vu en salle et franchement, c'est un très bon film. Voilà.
Un film d'ailleurs qui avait été élu meilleur film français de l'année au Masque et la Plume cette année. Donc c'est aussi un gage de qualité.
Oui. Et donc c'est l'éditeur Blackout qui le propose. Alors au départ, il n'y avait qu'un DVD de prévu et en fait, peut-être du fait du grand succès du film, l'éditeur a décidé de sortir une version haute définition, ce qui est assez rare de la part de Blackout, parce que voilà, c'est pas forcément dans sa ligne éditoriale, ce qui est un petit peu dommage, parce que pour promotionner le cinéma d'auteur, dont il est quand même un des grands fervents, c'est aussi en passant par une technicité peut-être plus proche de la réalité, et en termes de définition, et donc du coup pour les films, on va dire assez récents, ça serait quand même fort dommage de rester sur un support qui reste en deçà de ce que l'on attend, en tout cas d'œuvres intéressantes. Et bien, c'en est tout.
Oui.
pour la sélection de cette semaine.
C'est déjà beaucoup. Hein, oui, bon. Oui. Alors moi, j'ai fait mon marché. Je sais déjà que j'irai acheter Les Hommes du Président, hein, parce que voilà, c'est quand même un incontournable en ce qui me concerne. Mais j'avoue que voilà, dans ta sélection, il y a quand même pas mal de choses hein, qui m'ont intéressé. Et finalement, ce dossier 137, finalement, parce que j'avais loupé le film en salle, en ce qui me concerne, donc je suis quand même bien hypé, là, et ouais, tu as bien vendu le film, hein, bravo. Bon, voilà, bon, on va faire une petite pause musicale, il est 21h42 à la bandule de RTF, vous écoutez Cinéscopie, l'émission du cinéma et de la musique de film. Alors tiens, j'ai entre les mains d'ailleurs un superbe album consacré aux musiques composées par Georges Delerue pour la télévision, et il y a sur cet album en fait deux téléfilms, Mon Regard, enfin ce sont d'ailleurs je crois plutôt des mini-séries, Mon Regard qui date de 1970 et Adieu mes 15 ans, qui date de l'année suivante, 71. Deux très belles partitions de Georges Delerue, éditées par Music Box Records. Et c'est en plus une édition limitée, hein, limitée à 500 exemplaires. Donc allez sur le site de Music Box. Hein. Bon, il doit en rester quelques-uns. À moins qu'on ait pris les derniers, finalement.
Je crois que c'est une série limitée à 500 exemplaires.
Hein. Ouais.
Et donc, du coup, en plus, cette période des années 70, qui est assez difficile à trouver aujourd'hui. Je crois que le fer de lance, l'éditeur qui, à l'époque, promotionnait énormément Georges Delerue, n'était autre que les éditions Milan, mais qui sont maintenant passées sur un giron outre-Atlantique. Donc, je crois qu'ils ont perdu les droits. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez retrouver en fait l'ambiance donc des compositions du compositeur dans cette période, eh bien, vous pouvez vous procurer, tant que c'est disponible en tout cas, ces musiques du petit écran qui sont vraiment magnifiques. Et donc, voilà.
Ah, ouais, écoute, je suis vraiment ravi de posséder cet exemplaire ce soir. Alors, je me tourne vers toi, Laurent. Que nous as-tu concocté à mi-temps de l'émission ?
Alors, on continue donc à rendre hommage à la disparition d'Isabelle Huppert.
Nathalie Baye, plutôt.
Nathalie Baye, pardon. Mmh. Voilà.
Du coup, de fatigue,
toutes mes excuses.
21h44.
C'est
Isabelle Huppert nous écoute.
Oui, voilà.
On va lancer des rumeurs.
On va faire comme Michel Drucker. Voilà.
Ouais.
Donc là, on va rester par contre dans le même style de composition parce que c'est le même compositeur.
Ah.
Voilà, alors, pour un film, ma foi, très, très intéressant, où on y retrouvait, bien sûr, Nathalie Baye, mais pas que. Et il y avait aussi Francis Huster, alors avec tout le charme. Parce que...
mais à l'époque, il était tout à fait charmant. Remarque, il est charmant, Francis Huster. Finalement.
Oui, oui, oui. Ouais, mais bon, là, il était quand même très, très jeune. Hein.
Oui.
Et on était en 1983, quand même, passage. Et donc, pour le coup, il n'y avait pas que lui, d'ailleurs. Il y avait un autre acteur... qui était relativement jeune aussi à l'époque, qui n'était autre que Richard Bohringer.
Ah, bah oui, très sympa Richard Bohringer. Parce que tu as eu au téléphone une fois, on a bien discuté ensemble.
Mais bon, à côté de cela, il y avait aussi Guy Tréjean, Madeleine Robinson, pour ce film qui s'intitule « J'ai épousé une ombre », que vous, très certainement, connaissez tous, réalisé par Robin Davis.
Alors peut-être que c'est sur ce film que Nathalie Baye a rencontré Johnny. J'ai épousé une ombre. Non, je ne sais pas. Question.
Je ne sais pas. Autant on sait que, en tout cas, sa rencontre avec Philippe Lothar s'est faite lors du tournage de La Balance.
Oui, alors c'est vrai que ah oui, c'est à La Balance à l'époque, c'était Lothar. Oui, alors peut-être. Bon.
Alors après, là, je ne peux pas assurer, mais...
Non, on n'est pas très people, nous,
oui,
en fait.
Oui,
hein.
Oui, non. En fait, ça n'apporte pas grand-chose. En
réalité, non, pas vraiment. Enfin, sauf que bon.
Alors après, il est vrai que sur en fait ce film, il y a la chanson interprétée par Johnny Hallyday.
Oui.
On peut vous la diffuser hein, ce soir si vous êtes C'est une pépite quand même, hein, parce que c'est quelque chose. Enfin, c'est une chanson qui est assez peu connue de Johnny Hallyday.
Oui, mais je pense qu'à l'époque, elle a eu un certain succès, parce que
Mais tout à fait. Non, mais quand je dis une pépite, voilà.
Ah bah oui. C'est pas une celle qu'on entend le plus finalement.
Oui. Donc voilà, on peut terminer d'ailleurs sur cette chanson. Après, je dirais cette suite orchestrale où on va écouter en fait le final de J'ai posé une ombre, mais aussi un passage qui est vraiment sublime lorsque il y a cette passion au sein d'un vignoble, et donc quand les deux amoureux prennent un petit peu de plaisir, faut bien le dire. Et donc là il y a la musique extraordinaire de Philippe Sard qui amène toute la beauté musicale et de l'ambiance aussi au film. Donc on écoute cela, et puis en dernier une petite chanson de Johnny Hallyday qui est en fait le thème d'ouverture du film. On écoute cela et on se retrouve juste après pour la section des films de la semaine.
Un jour comme aujourd'hui, où les rues étaient sombres, j'ai épousé une ombre sans savoir qui elle était. Du temps où je me battais contre des ombres, de cette nuit, j'ai dit tu seras ma femme, elle a dit oui. Ses silences, ses absences, sa défense, ma souffrance, ma lame, je voudrais qu'elle entre, qu'elle entre.
Les films de la semaine, ce soir.
Ce qui compte, un film avec Pierre Lotin. Trouline Kid de Muriel Dassimbourg avec Colin O'Gorman. Et puis Le réveil de la momie de Lee Cronin. Alors, on va commencer cette émission avec Le réveil de la momie. Alors, un film qui est en fait réalisé par Lee Cronin. Vous le connaissez peut-être si vous aimez le cinéma fantastique, parce que il avait tourné un épisode d'Evil Dead plutôt réussi, je trouve, qui s'appelait Evil Dead Rise, et qui était assez emballant, assez violent d'ailleurs. C'était un Evil Dead assez sombre, assez violent, et qui était assez intéressant, et qui dynamitait la cellule familiale. C'est un peu d'ailleurs le cas pour Ce réveil de la momie. Alors, ça c'est le titre français, parce que Le réveil de la momie, je trouve que je trouve pas ça très heureux comme titre, surtout compte tenu du scénario. En fait, le titre original, c'est Lee Cronin's The Mummy. Donc, c'est beaucoup plus parlant. Alors, la momie, effectivement, ce personnage de la momie, on le connaît depuis les années 30. Il y a eu de nombreuses adaptations. Hammer Film, également, qui a, avec Boris Karloff, repris le personnage. Il y a eu, évidemment, la momie avec Brendan Fraser. Et plus récemment, une momie avec Tom Cruise. Bon, dans le film de Lee Cronin, eh bien, il y a aucun rapport avec les films que je viens de citer. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'histoire, ça se passe en Égypte, évidemment, au début du film, on est en Égypte, et on suit en fait une famille constituée d'un reporter. C'est un reporter américain qui est au Caire avec sa fille et son fils. Et sa fille disparaît brutalement. Sa jeune fille, hein, puisque doit avoir 6-7 ans, elle disparaît. Une enquête est menée, mais rien ne se passe. Et je crois 7 ans plus tard, on retrouve la jeune fille, on la retrouve dans un sarcophage, et on la retrouve évidemment dans un sale état. Et en fait, elle est vivante, mais moi je dirais d'ailleurs plus morte que vivante, ou morte vivante si vous voulez, parce qu'elle a ramené du sarcophage, elle a ramené quelque chose avec elle. Et donc, le père va enquêter, qu'est-ce qui s'est passé, voilà pourquoi elle s'est retrouvée dans ce sarcophage, etc. Bon, il y a une enquête qu'il va mener, et évidemment les réponses qu'il va trouver vont s'avérer terrifiantes. Donc là, Lee Cronin réalise en fait un film qui est plus un film de possession qu'un film sur un film de momie finalement. Et d'ailleurs, je pense que la principale référence de Lee Cronin pour ce film, c'est L'Exorciste. On a l'impression, d'une certaine manière, d'assister à un remake de L'Exorciste, et c'est plutôt bien fait. C'est filmé en scope, il y a une très belle photographie, la mise en scène de Lee Cronin est plutôt efficace, hein, d'ailleurs, je trouve que c'est quelqu'un qui sait très bien cadrer, composer ses plans. Il y a un jeu sur les profondeurs de champ qui est assez subtil, assez bien réalisé. Ça fonctionne bien. Les acteurs dans l'ensemble sont vraiment très bons. Ils sont bien dirigés. Donc, on a au final un film fantastique de qualité. Alors en plus, ça dure quand même 2h15. Alors 2h15, ça pourrait paraître long, mais c'est le temps nécessaire, je pense, pour éprouver de l'empathie pour les personnages, pour développer un petit peu à tous ces personnages. Mais quand même, le film n'est pas exempt de défauts. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que finalement, quand je suis sorti de la projection, j'étais un petit peu énervé, un peu en colère, parce que je me suis dit, voilà en l'état un film qui est pas mal. Franchement, il a ses qualités formelles, notamment. Mais il y a des choses qui clochent. D'abord, le scénario. Parce que le scénario, moi je trouve que le scénario est totalement invraisemblable. On comprend pas très bien pourquoi cette jeune fille, cette jeune américaine est enlevée. Pourquoi elle et pourquoi pas une autre? Voilà, j'ai pas trop bien suivi. Alors peut-être que j'ai pas tout compris, hein, vous allez me dire. Il retrouve la jeune fille en question dans un sale état, comme je vous l'ai dit. Mais enfin, avec la tête qu'elle a, moi je l'aurais jamais reprise à la maison. Non, mais c'est pas possible, je l'aurais laissée à l'hôpital, dans un institut spécialisé, quelque chose. Mais non, mais il la ramène chez eux. Bon, alors, Pourquoi pas? Et puis, bon, il y a quand même, voilà, des facilités scénaristiques. Et ça, ça m'a un petit peu sorti du film et c'est, je trouve, un petit peu dommage. Concernant les effets spéciaux, alors, globalement, c'est plutôt le point fort du film. C'est bien, bien fait. Surtout parce qu'ils ont privilégié les effets pratiques en plateau. Et ça, c'est vraiment, ça fonctionne du tonnerre. Surtout que c'est un film, quand même, qui propose des scènes assez gratinées, quand même, hein, assez, assez glauques, assez fortes. Et c'est vrai que si vous aimez, si vous avez un petit problème avec les ongles, avec les fluides, avec la peau qui pèle, ben, ça va vous hérisser le poil, si je puis dire, parce que il y a quand même des scènes assez dérangeantes. Et c'est plutôt réalisé. Et là, du coup, on pense à un film de Sam Raimi, Jusqu'en Enfer, hein, où la pauvre héroïne, eh bien, s'en prenait plein la figure pendant tout le film. Ben, il y a un peu de ça dans cette momie, avec ce film. Mais il y a, à côté de ça, quelques effets qui sont, je trouve, notamment des CGI, donc les effets spéciaux en images de synthèse. Bon, il n'y en a pas énormément, c'est vrai, mais quand il y en a, ouais, ça passe, mais il faut pas trop s'attarder dessus. Heureusement, les plans sont relativement courts, je pense notamment aux coyotes qu'on voit dans le film. Ouais, c'est pas... ça, c'est quand même moyen. Bon, ça, c'est des petits points de détail, mais bon, c'est des choses comme ça. Et puis, il y a quand même, je reviens au scénario quand même, il y a une scène qui aurait pu être dantesque, franchement. Je vais pas trop spoiler, je vais juste vous dire que c'est une scène de funérailles. Et là, on se dit, ouais, super, ça va, c'est, mais ça va pas jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout. Et alors là, franchement, je trouve que c'est une occasion manquée. Donc, voilà. Donc un bilan, je dirais, mitigé pour un film qui est quand même, plutôt bien réalisé, qui propose des moments assez violents. Mais voilà, avec ces quelques problèmes de scénario, qui m'ont un petit peu sorti du film, et puis quand même la musique également. C'est-à-dire que finalement, moi j'aime bien dans un film dans un film d'horreur, notamment que la musique ne soit pas trop présente. Dans L'Exorciste, par exemple, la musique n'intervient qu'assez peu, finalement, ce qui renforce le caractère documentaire quasiment de ce film. Bon, ici, la musique, elle est quand même un peu bourrine, et ça, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que Lee Cronin, c'est quand même créer des ambiances. Voilà, donc, au finish, je ne peux quand même que vous conseiller ce film, parce que c'est quand même une bonne surprise. Avec les quelques bémols que j'ai apportés, je pense qu'on est passé à côté d'un grand film d'horreur, un grand film fantastique. Il y a quand même des idées, mais voilà, avec des moments où on a l'impression que les chroniques se réfrènent. On aurait pu aller sur quelque chose de dantesque. Et puis un final également, alors chacun l'interprétera ou l'appréciera comme il l'entend. Voilà, je suis un petit peu sceptique concernant le final, la toute fin du film. Hein, je parle vraiment de la toute fin. Enfin, dans l'ensemble, quand même, c'est plutôt une bonne surprise que ce réveil de la momie. Alors, on va changer totalement de registre avec cette fois-ci un film. Alors qu'il faut peut-être aller voir rapidement un film français. C'est film avec Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin. Ce qui compte. Et ce qui compte, c'est Laurent qui a vu le film. Alors, je vais te laisser le micro.
Oui, on était curieux d'assister à la première rencontre à l'écran de Sandrine Kiberlin et de l'acteur Pierre Lotin. Voilà. Surtout d'ailleurs sous l'égide du réalisateur Jean-Baptiste Leonetti, qui, après avoir réalisé Carré Blanc le thriller Hors de portée avec Michael Douglas, s'aventure pour la première fois dans la comédie sociétale. Alors, comédie, c'est un bien grand mot parce que c'est quand même une comédie à fort relent dramatique, quand même. Hein. Certes, on est amené à rire, mais quelquefois le rire peut se transformer en sanglot parce que voilà, de par l'histoire, le metteur en scène raconte sur, en fait, fond de galère financière, la rencontre de deux adultes, c'est-à-dire une mère célibataire qui squatte avec ses trois enfants à l'étage de l'hôtel familial, qui ne leur appartient plus d'ailleurs, et un homme taciturne, sans domicile fixe, croisé au supermarché, où elle, en fait, a été surprise en train de voler pour nourrir sa petite famille. Et donc, une fois ces personnages posés, bien, se déroule sous nos yeux un récit, certes, assez téléphoné, parce que voilà, on se doute de ce qui va se passer, mais après le film ça et là nous propose un comique de situation assez bien senti quand même, même si voilà, il y a quand même un gros problème scénaristique, parce que ça part un petit peu dans tous les sens et ça manque un petit peu de rigueur aussi. Alors les acteurs sont formidables parce qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent, hein, les pauvres. mais malheureusement, le scénario n'est pas à la hauteur, en fait, de ces deux acteurs qui sont immenses. Et du coup, et surtout vers le dernier tiers du film, où là, par contre, on flirte quand même avec sérieusement le pathos. Et donc, du coup, on a du mal à ce que cette histoire soit crédible. Et du coup, même si ça et là, il y a quelques petites larmes, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas trop emporté par, je dirais, le destin, en fait, de tous ces personnages. Les enfants aussi, qui sont assez magnifiques aussi en termes d'interprétation. Le problème est toujours scénaristique, c'est-à-dire surtout le long du film, c'est-à-dire un peu plus d'une heure 35. Et c'est un petit peu dommage parce que vraiment, il y avait une dynamique, il y avait du potentiel aussi. Je pense que le réalisateur aurait pu faire quelque chose d'assez bien senti. Une comédie, c'est ce qui est peut-être le plus dur aujourd'hui à réaliser, parce qu'en fait, il y a l'écriture, mais il y a aussi le timing, la rythmique, la dynamique, et ça, il faut que ça soit excessivement millimétré, et c'est pas le cas dans ce film. Et c'est un petit peu dommage parce que on est passé à côté d'un excellent film. Alors le film marche bien parce que voilà, c'est un petit côté humoristique, et donc aujourd'hui, eh bien, c'est du cinéma populaire et les gens sont assez friands, les spectateurs sont assez friands de ce cinéma-là dans cette période un petit peu morose. Mais somme toute, voilà, on va dire sur un plan purement cinématographique, je pense que Jean-Baptiste Leonetti aurait pu faire beaucoup mieux. Suite au passé qu'il a pu réaliser à l'époque de ses précédents films. Donc voilà, un petit dommage quand même. Voilà, si vous voulez passer quand même un bon moment, vous pouvez y aller, mais ça reste pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là. Donc voilà.
Et oui, c'est ça, c'est dommage là aussi. Un film qui passe un petit peu à côté de son objectif, alors que c'est pareil un peu pour Le Réveil de la Momie, hein, voilà, c'est le scénario qui plombe un petit peu le film. Alors, on va changer là aussi totalement de registre avec un film qui peut-être pour nous est peut-être le film le plus intéressant. Alors, on a vu quand même d'autres films, on vous en parlera la semaine prochaine, on a vu des films vraiment très intéressants.
Oui, mais on va pas parler de tout. Voilà, on va pas spoiler les
autres films dont on vous en parlera, notamment la semaine prochaine, Good Luck, A Fun, Don't Die, La Corde au Cou et d'autres. Voilà. Mais on a choisi Truly Naked, film. Alors, c'est un film qui se passe, me semble-t-il, en Écosse, mais qui est réalisé par une réalisatrice flamande. Alors, est-elle belge ou néerlandaise? Je pense qu'elle est hollandaise, en fait. Hein. Truly Naked. Alors, quel est le pitch du film, Laurent? Au moins que tu veux que je m'en charge.
À la sortie du lycée, eh bien certains font du sport, d'autres traînent avec des amis, et Alec, lui, eh bien empoigne sa caméra et filme les ébats sexuels de son père, qui est ni plus ni moins qu'un hardeur, hein, un acteur X. Ouais. Et donc un peu trop à l'aise, ce papa cool n'hésite pas d'ailleurs à exploiter les talents artistiques de son fils sous couvert de relations fusionnelles. Voilà, on n'en dit pas plus.
Oui, alors effectivement, c'est quand même aussi un des sujets du film, c'est-à-dire qu'en fait, le père d'Alec est, voilà, produit du contenu pornographique pour des plateformes spécialisées. Et donc, c'est une sorte de petite micro-entreprise familiale, puisque, alors, en plus, Alec, comme tu le disais, est lycéen la journée, il a 17 ans. Hein. Donc, il y a déjà une relation assez étrange entre le père et le fils. Une relation, on pourrait même dire, toxique. Et c'est vrai, quand on sort du film, on se dit que finalement, le sujet du film, c'est la toxicité. La toxicité des images pornographiques. Alors, le film, d'ailleurs, peut-être un peu trop démonstratif, c'est-à-dire que évidemment il fait une démonstration et voilà, cette toxicité qui affecte évidemment les jeunes, parce que énormément, et c'est dit d'ailleurs dans le film, hein, énormément de jeunes, de par évidemment l'utilisation des smartphones, et via les réseaux sociaux et via les plateformes sur le net, ont accès justement à la pornographie, et ce de plus en plus jeunes. Et donc cela évidemment a un effet totalement, je dirais, toxique sur les relations amoureuses que les jeunes peuvent avoir, notamment que les garçons en particulier peuvent avoir avec les filles, même si certaines filles regardent aussi du porno. Donc c'est un peu le sujet du film, puisque Alec, ce fils qui est à la fois caméraman et monteur des films de son père, eh bien doit réaliser un exposé, et il le fait avec une jeune fille, une jeune fille de sa classe, et une relation sentimentale va se développer entre eux. Et le problème, c'est que cette relation va être plus ou moins viciée par justement le regard que le garçon porte sur elle, parce que c'est un regard très marqué par les codes du cinéma pornographique. Et évidemment, le jour où ils ont tant une première relation intime, ça se passe très mal. Parce qu'effectivement, ce jeune homme, Alec, il est prisonnier de ses représentations.
Il est conditionné, tout simplement.
Il est comme conditionné, exactement. Et il va devoir donc changer son regard. Et le film, c'est ça, c'est la question du regard et comment changer ce regard, en fait.
C'est un peu le rapport, en fait, du cinéma X et de la jeunesse, donc que ce soit aujourd'hui ou des années passées, où en fait, eh bien, là, c'est un petit peu plus facile d'accessibilité. Il y a quelques années, c'était un petit peu plus difficile. Mais en fait, le film commence un petit peu comme si, un jeune, découvre, donc de façon assez brutale, je dirais, l'univers en fait du X. Et donc par le fait de cette récurrence, c'est-à-dire cette répétition, parce que très souvent, il y a une sorte d'attirance, de magnétisme, il y a, une condition, un conditionnement qui est fait, et donc ça modifie l'image en fait des êtres que les jeunes peuvent voir à travers en fait ces enregistrements là. Et ensuite, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, et depuis quand même pas mal d'années, et donc ils essayent de le reproduire dans la réalité, ce qui n'est pas du tout la réalité, voilà.
Oui, exactement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le film, c'est que la réalisatrice nous montre, alors sans complaisance d'ailleurs, mais on comprend bien ce qui se passe, on comprend bien, voilà. Elle nous montre la brutalité, à la fois la dimension très business de cette activité, hein, c'est de faire de l'argent. Et il faut faire de l'argent en faisant du sexe brutal. Et d'ailleurs, l'obsession du père d'Alec, c'est de trouver la nouvelle idée. Tiens, qu'est-ce qui fait que les gens vont cliquer sur la vidéo? Voilà, qu'est-ce qui va me faire gagner de l'argent?
Il y a un mercantilisme, et puis cette soif que l'on voit à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire trouver, le buzz qui va en fait attirer un certain nombre de spectateurs pour aller cliquer sur les nouvelles vidéos que le père peut mettre en scène Bon, une mise en scène assez, je dirais, squelettique, mais bon, qui répondent toujours aux mêmes critères hein, de visionnage, en fait.
C'est ça. Donc, on ne va pas en dire davantage, mais c'est vrai que, du coup, le film est quand même... sur le plan de la, c'est pas un film érotique, mais sur le plan comme de la représentation de l'acte sexuel dans les films X, il est assez clair. C'est-à-dire que, du coup, le film est interdit aux moins de 16 ans, avec avertissement d'ailleurs, parce que ça m'a d'ailleurs fait penser à un autre film qui était aussi un peu dans cet esprit, c'était Pleasure, l'histoire d'une jeune femme actrice dans le cinéma porno qui veut faire fortune, enfin, en tout cas qui va être engagée dans une boîte de production américaine, donc qui part aux États-Unis et qui fait des films hard, crade, pour essayer d'être repérée et être voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a elle filme la réalisatrice Muriel Dassembourg,
qui est néerlandaise.
Néerlandaise, voilà. Donc c'est vrai qu'elle filme ça et sans complaisance, encore une fois, mais ça reste assez cru, et donc ça peut choquer, hein, ça peut choquer certains spectateurs, mais voilà, et c'est vrai qu'il y a des scènes, notamment une scène à la fin qui est assez glauque, mais on va pas spoiler, voilà. Mais le film, c'est pas uniquement que ça, il y a quand même aussi au centre, au cœur du film, cette histoire, cette relation sentimentale entre Alec et la jeune fille dont j'ai oublié le nom, mais et d'ailleurs Alec qui est un acteur irlandais, je crois, et qui s'appelle Caolan O'Gorman, qui est vraiment excellent. Il a ce côté, j'ai trouvé, il est assez gringalé. Il m'a fait penser un peu à Timothée Chalamet, un peu, tu vois, dans le physiquement, il y a un petit côté chalamesque chez lui, ouais, d'une certaine façon.
Et l'actrice, c'est Safia Benadi.
Oui, qui est très très bien, hein, très bien dans le rôle. Je trouve qu'elle a une vraie présence. Et alors, j'ai quand même fait une petite recherche, parce que dans les scènes porno du film, il y a une actrice qui m'a paru effectivement très convaincante. C'est Alessa Savage. Et je me suis dit, mais quand même... mais c'est une véritable actrice de X. Donc j'ai fait ma petite enquête sur le net. C'est une véritable actrice de X et j'ai été quand même bluffé parce que j'ai trouvé qu'elle était pas seulement convaincante dans les scènes de sexe, mais j'ai trouvé très convaincante en tant que personnage. C'est-à-dire qu'elle fait vie, elle fait pas que des scènes de sexe dans le film, hein, et je trouve que son personnage, il existe vraiment. D'ailleurs, il y a un moment de dialogue, il y a un dialogue entre elle et la jeune fille à un moment donné, ouais, que je trouvais très intéressant. Et c'est vraiment, on est vraiment dans les coulisses un peu de toutes ces productions. Et j'ai trouvé Alessa Savage vraiment formidable. Moi, j'aimerais bien la revoir en dehors, d'une certaine façon, en dehors du circuit X, parce que voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait dans la vraie vie ce que nous montre le film. Hein. Mmh. Voilà. Donc, film assez passionnant. J'ai trouvé peut-être Chouya un peu démonstratif, tu le sais, hein, j'ai trouvé peut-être un petit... Bon, mais quand même qui fonctionne.
Moi, je trouve que, en tout cas, je me félicite parce qu'en sens où c'était un sujet qui n'était pas facile à traiter. Et en termes de réalisation, je trouve que la réalisatrice, en tout cas sur tout le long du film... à trouver l'équilibre de la bonne distance. Et ça, c'était pas facile, parce qu'on aurait pu vraiment tomber dans le stéréotype. Et là, vraiment, il y a vraiment une justesse dans son histoire qui fait que, quelque part, ça redouble, en tout cas, le pouvoir, en fait, de ce film, à titre pédagogique, hein, parce que...
Oui. Et jusqu'à une scène finale et un plan final... qui est ambigu, qui renvoie à l'idée tout simplement que l'image exerce un pouvoir de fascination quand même.
Ouais, parce que tout simplement, on est dans une société d'apparence, mais aussi d'images.
Et, oui.
Et on est entouré d'images. Et donc, forcément, c'est d'ailleurs un petit peu notre mal, d'ailleurs. Hein.
Oui, en fait, on en vit aussi, nous, oui, hein, à la radio. Hein.
et donc, voilà, mais
On partage la puissance scopique des personnages.
C'est un autre sujet, d'ailleurs, qu'on débattra très certainement à travers un autre film que l'on a vu cette semaine.
Et exactement. Bah, c'est vrai qu'on, quand on aime le cinéma, on est toujours un peu voyeur. Hein, c'est vrai que, bon, bah, voilà, forcément, il y a de ça.
Oui, voilà. Oui. Et voilà. Depuis l'origine, d'ailleurs, du cinéma de voyeurisme.
Ce qu'a très bien montré Fred Hitchcock, dans Fenêtre sur cour, Brian De Palma, entre autres. Bon, ben il est alors vous pouvez aller voir Truly Naked, hein, voilà, mais avec attention, c'est interdit au moins de 16 ans quand même. Hein, bon. 22h25, on va bientôt vous parler des films qui vont sortir sur les écrans ce mercredi 22 avril. Je ne sais pas, est-ce qu'on se fait une petite virgule musicale ou on se lance
On va écouter une petite virgule musicale, comme tu le dis si bien, Chris, avec toujours un petit hommage, un dernier hommage à Nathalie Baye à travers une comédie de 2002 signée Steven Spielberg. Là, on change un peu de registre. Hein. Musique signée John Williams pour Arrête-moi si tu peux.
Si tu peux, ouais.
Cette musique et surtout l'introduction du générique est vraiment magnifique. Vous allez très certainement reconnaître la rythmique. Et nous, on se retrouve juste après pour vous annoncer les différentes sorties. Qu'est-ce que vous pourrez voir? Eh bien, au cinéma à partir de mercredi. Allez, tout de suite, la musique de John Williams pour ce film de Steven Spielberg.
Maintenant, nous allons vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans de cinéma à partir de ce mercredi 22 avril. Alors, quelles sont les nouveautés? Quels sont les films dignes d'intérêt? Enfin, on va pas forcément vous parler des films dignes d'intérêt, on va parler de tous les films qui sortent, et puis après, vous ferez votre marché. Voilà, vous irez voir ce qui vous intéresse. Alors, je sais que, en tout cas, dans les films qui sortent, il y a un film néo-zélandais qui m'a l'air assez passionnant. Un film qui flirte avec le fantastique, avec l'horreur, qui s'appelle Marama, me semble-t-il, mais peut-être que Laurent va nous en dire davantage. Alors, on t'écoute, quels sont les films qui sortent?
Alors là, on va vous annoncer les films que vous pourrez voir sur Limoges. Ce qui n'est peut-être pas le reflet de toutes les sorties prévues à partir de mercredi. Donc, on va commencer par un film qui est une comédie, un film qui s'intitule La poupée. De Sophie Beaulieu avec Vincent Macaigne entre autres et Cécile de France. Voilà. Et donc qui raconte l'histoire de Rémi qui ne s'est jamais remis de sa dernière séparation et depuis donc il s'est mis en couple avec une poupée, c'est plus simple d'ailleurs, et donc elle s'appelle Audrey et le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, eh bien Audrey va mystérieusement prendre vie. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Hein. Et puis Vincent Macaigne, j'aime bien l'acteur. Donc voilà.
Pourquoi pas.
On ira découvrir ce film-là. Ensuite, forcément, un petit film asiatique avec les fleurs du manguier. De Akio Fujimoto et donc qui raconte l'histoire de Shafi dans l'espoir de retrouver leur famille dispersée 4 ans et sa sœur Somira 9 ans et qui quitte un camp du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie et donc guidés par leur regard d'enfant, eh bien ils entreprennent une traversée périlleuse. Autre film, alors celui-ci c'est difficile de passer à côté hein, parce que il y a des affiches partout. Voilà. Et donc c'est un biopic filmé et réalisé par Antoine Fuca. Et donc ce n'est autre que le film sur Michael Jackson donc qui s'intitule Michael. Voilà, donc qui sort mercredi et donc à voir très certainement pour faire une petite rétrospective de l'artiste. Autre film cette fois-ci réalisé par Marie Castille Menton Char, ça s'appelle Pour le meilleur, et donc qui raconte l'histoire, incroyable histoire d'amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses 4 membres, et de Suzanne, une femme qui va lui redonner l'énergie et la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. Forcément, c'est une histoire vraie. Hein. Voilà, vous pourrez découvrir ce film à partir de mercredi. Ensuite, une comédie qui s'intitule Première ligne de Merzak Alouache et donc qui raconte. Ben, c'est l'été, on y arrive. Hein, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, on s'approche. Et donc la famille. Bouderbala arrive tôt à la plage pour être installé au bord de l'eau première ligne et entre secrets de famille et guerre de voisinage et eh bien le séjour va vite tourner au cauchemar. Ça peut-être dans le petite comédie d'où sa mère peut-être un peu dans le style de Liberté aux Hollérons là,
d'accord,
peut-être. À voir. Autre film, Soum Soum, La nuit des astres, réalisé par Mahamat Saléhanoun, donc qui raconte l'histoire dans un village isolé pardon du Tchad, eh bien Kelou qui est traversée par des visions qu'elle ne comprend pas, et grâce à sa rencontre avec Aya, une exilée au secret douloureux, eh bien elle va découvrir une autre façon de regarder son passé, ses rêves et son village. Mais en prenant donc la défense d'Aya, eh bien que le chef du village tente de chasser, eh bien elle se heurte à la peur et à la colère des habitants et devra se battre pour garder sa liberté. Donc voilà une partie des sorties, mais nous pourrons voir aussi, il y a quand même pas mal de sorties à partir de mercredi, eh bien un autre film qui s'agit de Leila Bourzide, c'est À voix basse, donc qui raconte l'histoire de Lila, de retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, et qui retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Et donc, déterminée à éclaircir le mystère de cette mort soudaine, eh bien, Lila se retrouve confrontée au secret d'une maison où cohabitent trois générations de femmes. Autre film, c'est Caravane. Il me semble qu'on a vu d'ailleurs la bande-annonce récemment.
Tout à fait.
film de Zurana Kurchinova, qui raconte l'histoire d'Esther, qui élève seul David, son fils, atteint d'une déficience intellectuelle. Et cet été, elle rêve d'un peu d'insouciance chez des amis en Italie. Mais après une crise de David, eh bien, la tension monte. Et il se retrouve exilé dans une vieille caravane au fond du jardin. Et c'en est trop pour Esther. Et sur un coup de tête, eh bien, ils prennent la route. Et quand Zouza, jeune routarde, sans préjugés, embarque à leur côté, eh bien, un trio bancal, mais sincère, se forme entre joie fragile et liberté inattendue. On pourra voir aussi un autre film qu'on a vu d'ailleurs en bande-annonce aussi, c'est Nous, l'orchestre, film de Philippe Bézia, et donc c'est un documentaire sur comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse, comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose, quel rôle joue vraiment le chef d'orchestre. Pour la première fois, eh bien, caméra et micro se faufilent parmi les 120 musiciens de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mekela. Donc un film immersif au cœur de la musique en train de se faire, au plus près de l'expérience des musiciens et de leurs émotions et de la beauté orchestrale. Voilà, et puis pour en terminer, Chris, pour eh bien nous pourrons voir à partir de mercredi, eh bien un film qui s'intitule L'arnaqueuse de Wilfried Mirans, qui raconte l'histoire de Fanny, 30 ans, enceinte, qui n'en peut plus de vivre chez son père avec Virgile, son compagnon, champion de la procrastination. Et donc, alors qu'elle tombe sur une offre en or, eh bien, un appartement parquet, moulure, cheminée, en viager dans Paris, eh bien, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante et bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie. Eh bien, Fanny s'engage dans une guerre sans pitié contre l'arnaqueuse professionnelle.
Voilà, mais écoute, ça fait penser au viager, ça, un peu, le scénario.
Ben, c'est ce que j'allais dire, oui, de Tachernia. Ouais.
Voilà. Voilà, et puis n'oubliez pas, jeudi soir au Lido, à 20h30, la projection du film Le Député, film de Eloy de la Iglesia, qui vous sera présenté par Diane Bracco, hispaniste et spécialiste de cinéma à l'Université de Limoges. Donc jeudi 23 à 20h30, le député de Eloy de la Iglesia. Et puis vendredi 24 au soir, et bien là par contre c'est la projection de deux films signés Hayao Miyazaki. À 19h30, Le Voyage de Chihiro, et 22h, Princesse Mononoke. Voilà, c'est toujours intéressant de revoir ces films sur grand écran. On vous remercie, on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de la station, une excellente semaine dans les salles de cinéma. Et puis on vous retrouve théoriquement la semaine prochaine, lundi prochain, Laurent.
Oui, tout à fait. Passez de belles soirées de projection, de belles journées aussi, parce que tout ce qui sort, eh bien, je pense que votre semaine sera bien, bien remplie.
Tout à fait.
On vous souhaite une excellente semaine cinématographique et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao.